Bienheureux serais-je si j'ai faim et soif de justice. Du moment où il naît jusqu'au moment où il meurt, l'homme est avide de nourriture. Il ouvre la bouche à sa naissance pour saisir le tétin. Il ouvre les lèvres pour absorber de quoi se restaurer dans les étreintes de l'agonie. Il travaille pour se nourrir. La terre est pour lui comme un sein gigantesque auquel il demande incessamment sa nourriture pour ce qui meurt. Mais qu'est l'homme? Un animal? Non, c'est un fils de Dieu. En exil pendant des années, plus ou moins nombreuses, mais sa vie n'est pas finie quand il change de demeure. Il y a une vie à l'intérieur de la vie, comme dans une noix. Il y a le cerneau. Ce n'est pas la coque qui est la noix, mais c'est le cerneau intérieur qui est la noix. Si vous semez une coque de noix, rien ne pousse, mais si vous semez la coque avec la pulpe, il naît un grand arbre. Il en est ainsi de l'homme. Ce n'est pas la chair qui devient immortelle, c'est l'âme, et il faut la nourrir pour l'amener à l'immortalité à laquelle, par amour, elle peut amener la chair dans la résurrection bienheureuse. La nourriture de l'âme, c'est la sagesse et la justice. On les absorbe comme un liquide et une nourriture fortifiant. Et plus on s'en nourrit, plus augmente la sainte avidité de posséder la sagesse et de connaître la justice. Mais il viendra un jour où l'âme insatiable de cette sainte faim sera rassasiée. Ce jour viendra. Dieu se donnera à son enfant. Il l'attachera directement à son sein. Et l'enfant au paradis se rassasiera de la mère admirable qui est Dieu lui-même et ne connaîtra jamais plus la faim, mais se reposera bienheureux sur le sein divin. Aucune science humaine n'atteint cette science divine. La curiosité de l'intelligence peut être satisfaite, mais pas les besoins de l'esprit. Et même à cause de la différence de saveur, l'esprit éprouve du dégoût et détourne sa bouche du tétin amer, préférant souffrir de faim qu'absorber une nourriture qui n'est pas venue de Dieu. N'ayez aucune crainte, vous qui êtes assoiffés ou affamé de Dieu. Restez fidèle et vous serez rassasié par celui qui vous aime. Bienheureux serais-je si je suis miséricordieux. Qui d'entre les hommes peut dire « Je n'ai pas besoin de miséricorde » Personne. Or, si dans l'ancienne loi il est dit « œil pour œil et dent pour dent », pourquoi ne devrait-on pas dire dans la nouvelle « Qui aura été miséricordieux trouvera miséricorde ?» Tous ont besoin de pardon. Eh bien, ce n'est pas la formule et la forme d'un rite qui ne sont que des symboles extérieurs accordés à l'opaque esprit humain qui obtiennent le pardon. Mais c'est le rite intérieur de l'amour ou encore de la miséricorde. Que si on a imposé le sacrifice d'un bouc ou d'un agneau et l'offrande de quelques pièces de monnaie, cela fut fait parce qu'à la base de tout mal, on trouve encore toujours deux racines, la cupidité et l'orgueil. La cupidité est punie par la dépense qu'il faut faire pour l'offrande, l'orgueil par la confession publique du rite. Je célèbre ce sacrifice parce que j'ai péché. Et cela se fait aussi pour annoncer les temps et les signes des temps et le sang répandu et la figure du sang qui sera répandu pour effacer les péchés des hommes. Bienheureux donc celui qui sait être miséricordieux pour ceux qui sont affamés, nus, sans toit, pour ceux encore plus misérables qui sont ceux qui ont un mauvais caractère, qui fait souffrir ceux qui le possèdent, et ceux qui vivent avec eux. Ayez de la miséricorde, pardonnez, compatissez, secourez, instruisez, soutenez. Ne vous enfermez pas dans une tour de cristal en disant « Moi, je suis pur et je ne descends pas parmi les pécheurs ». Ne dites pas « Je suis riche et heureux et je ne veux pas entendre parler des misères d'autrui ». Pensez que plus vite que la fumée que disperse un grand vent, votre richesse peut se dissiper et aussi votre santé, votre aisance familiale. Et rappelez-vous que le cristal fait office de loupe et que ce qui serait passé inaperçu en vous mêlant à la foule, vous ne pourrez plus le tenir caché si vous vous établissez dans une tour de cristal, seul, séparé, éclairé de tous côtés. Miséricorde pour accomplir un sacrifice secret, continuel, saint d'expiation, et obtenir miséricorde. Bienheureux serais-je si j'ai le cœur pur. Dieu est pureté. Le paradis est le royaume de la pureté. Rien d'impur ne peut entrer au ciel où est Dieu. Par conséquent, si vous êtes impur, vous ne pourrez entrer dans le royaume de Dieu. Mais, ô joie, joie anticipée que Dieu accorde à ses fils, celui qui est pur possède dès cette terre un commencement de ciel, car Dieu se penche sur celui qui est pur, et l'homme qui vit sur la terre voit son Dieu. Il ne connaît pas la saveur des amours humaines, mais il goûte jusqu'à l'extase la saveur de l'amour divin. Il peut dire « Je suis avec toi et tu es en moi. Je te possède donc et je te connais comme l'époux très aimable de mon âme. » Et croyez que celui qui possède Dieu subit, inexplicable à lui-même, des changements substantiels qui le rendent saint, sage, fort. Sur ses lèvres s'épanouissent des paroles, et ses actes possèdent une puissance qui n'est pas de la créature, mais de Dieu qui vit en elle. Qu'est la vie de celui qui voit Dieu ? Béatitude ! Et vous voudriez vous priver d'un pareil don par une fétide impureté ? Bienheureux serais-je si j'ai un esprit pacifique. La paix est une des caractéristiques de Dieu. Dieu n'est que dans la paix, car la paix est amour, alors que la guerre est haine. Satan, c'est la haine. Dieu, c'est la paix. Personne ne peut se dire fils de Dieu, et Dieu ne peut reconnaître pour son fils un homme qui a un esprit irascible et toujours prêt à déchaîner des tempêtes. Non seulement, mais de même ne peut se dire fils de Dieu, celui qui, ne déchaînant pas personnellement des tempêtes, ne contribue pas par sa grande paix à calmer les tempêtes suscitées par d'autres. Le pacifique répand la paix même s'il se tait. Maître de lui-même, et j'ose dire maître de Dieu, il la porte comme une lampe porte sa lumière, comme un encensoir répand son parfum, comme une outre porte son liquide, et il produit la lumière parmi les nuées fumantes des rancœurs. Il purifie l'air des miasmes des aigreurs. Il calme les flots furieux des procès par cette huile suave qu'est l'esprit de paix qui émane des fils de Dieu. Faites que Dieu et les hommes puissent vous appeler ainsi. Bienheureux serais-je si je suis persécuté pour mon amour de la justice. L'homme est tellement satanisé qu'il hait le bien partout où il se trouve, qu'il hait celui qui est bon, comme si celui qui est bon, jusque par son silence, l'accusait et lui faisait des reproches. En effet, la bonté de quelqu'un fait paraître encore plus noire la méchanceté du méchant. En effet, la foi du vrai croyant fait ressortir encore plus vivement l'hypocrisie du faux croyant. En effet, il ne peut pas ne pas être détesté par ceux qui sont injustes, celui qui, par sa manière de vivre, témoigne sans cesse en faveur de la justice. Et alors voilà qu'on se déchaîne contre ceux qui aiment la justice. Ici aussi, c'est comme pour les guerres. L'homme progresse dans l'art satanique de persécuter plus qu'il ne progresse dans l'art saint de l'amour. mais il ne peut que persécuter ceux dont la vie est brève. L'Éternel qui est dans l'homme échappe au piège et acquiert ainsi une vitalité plus vigoureuse du fait de la persécution. La vie s'enfuit par les blessures qui saignent ou pour les privations qui épuisent celui qui est persécuté. Mais le sang fait la pourpre du futur roi et les privations sont autant d'échelons pour s'élever jusqu'au trône que le Père a préparé pour ses martyrs, auxquels sont réservés les sièges royaux du royaume des cieux. Bienheureux serais-je si l'on m'outrage et me calomnie. Ne faites que ce qui peut mériter que votre nom soit inscrit dans les livres célestes, là où ne sont pas notés les noms d'après les mensonges des hommes et les louanges décernées à ceux qui les méritent le moins, mais où, par contre, sont inscrites avec justice et amour les œuvres des bons, pour qu'ils puissent recevoir la récompense promise à ceux qui sont bénis de Dieu. Jusqu'à présent, on a calomnié et outragé les prophètes, mais quand s'ouvriront les portes des cieux, comme des rois imposants, ils entreront dans la cité de Dieu et ils seront salués par les anges, chantant de joie. Vous aussi, outragés et calomniés pour avoir appartenu à Dieu, aurez le triomphe céleste, et quand le temps sera fini et le paradis rempli, alors toute larme vous sera chère, parce que par elle vous aurez conquis cette gloire éternelle qu'au nom du Père je vous promets. Allez, demain je vous parlerai encore. Que restent seulement les malades pour que je les secoure dans leur peine? Que la paix soit avec vous, et que la méditation du salut par le moyen de l'amour vous mette sur la route qui aboutit au ciel.